With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard à Fut. Je suis ravi de vous retrouver enfin en studio avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud, comment va ?
Salut Raph, merci encore une fois de m'accueillir pour un nouvel épisode de Poulain Rafute. Vous le savez, Poulain Rafute, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro et même jusqu'aux confins du Pays Basque du côté de Biarritz. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui n'est pas facile à attraper, qui attrape par contre très facilement les ballons dans les rocs.
Mais Arnaud, bah écoute, oui, on va pas passer par quatre chemins, vous l'avez tous reconnu, Stéphane Armitage, c'est l'un des meilleurs troisième lignes de sa génération, gratteur, passeur, plaqueur et bien sûr buteur depuis quelques mois. Bref, le type est complet, écoutez plutôt. Meilleur joueur de la saison en 2012, plus de 400 matchs dans l'élite anglaise puis française, 3 titres de champion d'Europe et un bouclier avec Toulon, et donc un titre de champion de France fraîchement acquis en Pro D2 avec le BO, et donc le BO est de retour en top 14 cette saison. Aujourd'hui capitaine du Biarritz Olympique, il a vécu 1000 aventures dans le rugby entre les Saracens, les London Irish, Toulon et la section paloise, et l'une des plus belles en tout cas de l'extérieur et en tant qu'amateur de rugby, c'est cette finale d'accession et ce dernier coup de pied entre les barres qui envoie le BO en top 14 au détriment de Bayonne. Pour tout vous avouer, nous devions avoir Stéphane une semaine après la finale gagnée, mais à choisir entre une émission Poulain Rafute et une semaine à Ibiza, le choix était vite fait. J'espère en tout cas qu'il a bien fêté son titre. Il va nous raconter un petit peu cette belle période. Content en tout cas d'avoir réussi à t'avoir dans Poulain Rafute, Stéphane, et bienvenue. Salut.
Salut tout le monde. Merci beaucoup en tout cas d'être là avec vous. Merci.
On a insisté.
Alors Stéphane, on va pas revenir sur ton palmarès, hein. Raphaël vient de le faire, il est gigantesque. Mais quand on a une question avec Raph, parce que lui a arrêté sa carrière relativement jeune, toi aujourd'hui, tu as passé la trentaine, on dit plus l'âge quand on a passé les 30 ans, mais qu'est-ce qui te fait courir à presque 36 ans? Allez, on l'a dit tout doucement, qu'est-ce qui te fait encore courir? Qu'est-ce qui te donne envie encore d'aller prendre des coups, d'aller gratter des ballons dans les rucks? Qu'est-ce qui te donne envie encore de jouer au plus haut niveau?
Je pense que le plus important, c'est de vraiment de voir les jeunes maintenant, les jeunes de 20 ans, de 19 ans qui sont là sur le terrain à côté de toi et tu les vois en train de galoper comme des lapins de partout. Et moi, dans ma tête, ça me donne envie. Non, je suis plus fort qu'eux. Il faut que je cours plus vite, plus fort qu'eux. À chaque truc que je fais, dans ma tête, c'est moi, je veux toujours viser à être le meilleur. Alors, il faut que je continue à me pousser. Ça me donne envie de continuer de me pousser jusqu'au bout, en fait.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu leur apportes, toi, maintenant à 35 ans, bientôt 36, qu'est-ce que tu leur apportes parce que tu as été justement jeune joueur à 20 ans, chien fou, on peut l'imaginer, quand on t'imagine encore cavaler comme ça sur le terrain, il faut imaginer le bordel il y a 15 ans maintenant, enfin, c'était une machine. Par rapport à cette nouvelle génération qui a changé, les réseaux sociaux sont arrivés, il y a une génération qui est axée essentiellement au rugby professionnel, qu'est-ce que tu leur apportes de par ton énorme expérience?
De vraiment montrer aux jeunes et de les apprendre que vraiment la carrière d'un rugbyman, c'est très court. Il faut profiter, il faut prendre du plaisir et ça vaut vraiment de tout vouloir, tout lâcher sur le terrain. Des fois, il y a des sacrifices à faire. Par exemple, tu vois, au lieu de tout en sortir, quoi, il y a des choses à sacrifier des fois dans le rugby maintenant, dans cette période maintenant. Et c'est ça que j'essaie de l'apprendre. De prendre tout dans les mains maintenant et de ne pas attendre le dernier moment.
Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux parce que vous avez eu la réputation tous les deux justement d'être avoir ce côté épicurien, ce côté aimer faire la fête après les matchs. Est-ce qu'il y a des choses, tous les deux, que vous ne referiez pas, justement?
Écoutez, il faut pas, surtout pour moi, j'ai toujours dit, il faut pas avoir des regrets dans notre carrière de rugby et toutes les choses que s'est passé, tout ça, ça nous est arrivé à ce moment-là. Alors voilà, les choses se passent pour des raisons et voilà, moi j'ai pas de regrets et voilà, ce truc je peux dire.
Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'en ai pas non plus à 41 ans et pourtant, on n'a pas du tout la même carrière. Moi, j'ai débuté à 18 ans, 19 ans. J'étais 7 ans pro. Oui, j'ai gagné des titres, mais bon, j'ai loupé les finales. Les gens le savent. J'étais bringueur aussi parce que j'étais plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières à la fin de ma carrière. Mais c'était énorme et ça m'a permis, en fait, justement, aussi d'apprendre de mes erreurs aussi pour mon parcours c'est plus ça. Tard en tant qu'homme, en tant que père maintenant et sur les projets que je suis en train de mener. Donc, Dire qu'il y aurait des regrets. Moi, j'ai 6 opérations quand même, tu vois, le bras, je me pète le bras en faisant un bras de fer, je perds une couille à Béziers qui explose, je chope l'appendicite en Irlande, je suis aux portes de l'équipe de France, je me pète les deux épaules. Ouais, en 6 ans, c'est pas mal. Mais Ouais. Donc, il y a hygiène de vie un petit peu, voire beaucoup, mais aussi à côté, le côté chien fou que j'étais. Mais d'un autre côté, derrière, je pense que ça te forme. L'échec aussi te forme. Et je sais pas, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Aux États-Unis, et peut-être en Angleterre, quoi, toi qui as aussi cette culture anglo-saxonne, le droit à l'échec, là-bas, il est vu comme quelque chose d'un parcours de vie qui permet justement de grandir. En France, c'est un petit peu tabou, l'échec. Je sais pas ce que tu en penses.
Oh, c'est... Question... c'est... Je ne sais pas trop comment il faut répondre, ça.
C'est une question très philosophique, mais c'est vrai qu'en Angleterre, on a l'impression que les supporters sont peut-être plus tolérants, acceptent plus facilement qu'un joueur passe à côté d'un match. En France, on a le sentiment que parfois, un joueur qui rate un match, tout de suite, il se fait entre guillemets assassiner, non, Stéphane?
Oc'est ça, mais je pense que c'est tellement... Je ne vais pas dire qu'en Angleterre, les supporters, ils sont à fond derrière, mais c'est juste en France il y en a beaucoup, surtout pour nous à Toulon où le seul sport c'était le rugby. Ils sont vraiment passionnés, c'est des supporters qui sont c'est carrément leur vie. C'est alors des fois je comprends bien pourquoi pour eux il peut tourner un peu contre nous. Mm-hmm. Et aussi c'est voilà, c'est juste parce qu'ils sont vraiment ils ont vraiment beaucoup de passion, c'est ça. Et en Angleterre, il y a plein d'autres choses. Voilà, au bout d'un moment, ils s'oublient et ils passent au foot, par exemple, tous les autres sports. Le rugby, c'est en Angleterre où ça a commencé, c'est un truc. Tu peux même, si tu gagnes, tu perds, match nul, tout le monde se met ensemble et voilà, et en fait, le troisième mi-temps ensemble, c'est plus pareil maintenant.
Vous avez vécu tous les deux l'apogée d'un club, le Stade français RAF au début des années 2000, Stéphane avec le RCT dans les années 2010 avec 3 titres de Coupe d'Europe et un bouclier de Brennus. Qu'est-ce que vous retenez quand vous regardez vos parcours? Qu'est-ce qui vous a marqué tous les deux Est-ce que c'est l'aventure humaine avant tout que vous avez traversé plus que les titres ou pas?
Vas-y Stéphane.
Stéphane.
Mon avis, c'est les deux, franchement, parce que d'être venu ici, moi, au début, quand je signais à Toulon, on m'a dit, Mourad, il m'a dit que je serais le quatrième choix en numéro 7. Alors, pour moi, c'était un challenge de déménager d'Angleterre, de prendre ma vie, de prendre ma femme et de venir en France et d'essayer de vivre un truc que je ne savais pas que ça allait fonctionner ou pas. Alors ça, c'était un gros parti, mais aussi les joueurs que je rencontrais. Il y avait des joueurs sur le terrain où je regardais à la télé. Ça fait bizarre de le dire, mais moi, je regardais à la télé, je disais, oh, lui, il est magnifique, il est trop fort. Par exemple, Carl Lehmann, moi, je regardais à la télé. Johnny Wilkinson, je regardais à la télé, mais j'ai eu la chance de jouer avec lui à l'équipe d'Angleterre, mais aussi de jouer avec lui à Toulon. C'est juste, c'est tous les joueurs qui sont passés par là, C'est ça qui m'a touché plus que de gagner le titre.
Tu as vécu comme un rêve cette période-là un petit peu, Stéphane?
Ah oui, grave. La plupart du temps, je me pinçais pour voir si j'étais encore vivant. Parce que moi, franchement, j'ai vécu des joueurs que moi, je trouvais que c'était le meilleur du monde. George Smith, Giovanni Kirk, Chris Masoe, Johnny Wilkinson, Matt Ghetto. Tu vois, les noms, je peux dire plein de noms. Alors pour moi, c'était un rêve d'enfance de pouvoir jouer avec ces mecs.
était devenue une... Parce que tu parles de légende, mais quoi qu'on en dise, et on parlera de l'équipe d'Angleterre aussi après, mais tu es devenu aussi une forme de légende. Je veux dire, les trois titres, je veux dire, tu étais titulaire, je veux dire, indiscutable à ton poste pendant des années, sous la coupe de Bernard Laporte, que moi-même j'ai eue. Alors, je vais parler de mon expérience, moi, au Stade français, c'est un petit peu pareil. Sauf que je n'étais pas passionné, je ne pensais pas faire carrière. Je ne voyais pas Dominici comme un monstre sacré, même si je regardais le tournoi des Cinq Nations. Mais du jour au lendemain, quand tu joues avec Domi, avec Bibi Oradou, avec Mike James, avec Peter De Villiers, avec Sylvain Marconnet, et que tu viens de ta petite campagne, toi venant d'Angleterre, moi venant de France, ma petite campagne du nord de la France, tu te retrouves au milieu titulaire, au milieu de ces mecs-là, en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est juste, ça me met les poils, parce que c'est pas, les gens ne le comprennent pas aussi, quand tu es sur le terrain, quand tu as 10, 15, 20 000 personnes autour de toi, quand tu as tous ces mecs autour de toi, que tu as l'enjeu, on ne se rend pas compte en fait, du passé que tu peux avoir. Moi, j'étais un gamin, 2 ans auparavant, et je la raconte souvent, j'enlevais des mauvaises herbes dans les champs pour m'acheter un casque de mobylette, et du jour au lendemain, je me retrouve au milieu de tout ça. C'est extraordinaire, et la vie d'un rugbyman, elle est extraordinaire. Moi, je trouve ça super. Et en plus, on a eu la chance d'avoir deux présidents, certes très différents, mais qui, dans les années 2000, Max a révolutionné le rugby, et dans les années 2010, voilà, force est de constater que Boudjelal aussi a fait un énorme... Aller chercher Sonny Bill Williams en Pro D2, pour venir jouer en Pro D2, c'est juste hallucinant. Et il a réussi aussi à révéler des pépites, dont toi et ton frangin aussi.
Ah oui, c'est vrai. Surtout en parlant de ça, moi, je lavais les crampons, moi, au début, à Saracens, pour les pros. Ah. C'est ça les trucs. Et moi, c'était à l'époque quand il y avait Thomas Castagnède, Raphaël Ibanez. Moi, je lavais les crampons pour eux. Je le mettais dans le casier, comme ça. J'arrivais, je me mettais en plein milieu, je disais rien du tout. Et c'était pareil, quand je suis arrivé au Toulon, c'était pareil, tu te mets au milieu, il annonce l'équipe, Stéphane, tu commences numéro 7, et celui-là, je regarde autour, il n'y a que des, vraiment, il n'y a que des, les noms, c'est, ils ont tous une quarantaine de sélections pour leur pays, et il n'y a que moi avec pas beaucoup, mais je suis au plein milieu, mais on dirait que j'étais un gamin, j'étais un tout petit garçon qui avait trop peur, mais, et aussi, ils avaient trop peur de décevoir tout le monde, c'est pour ça... Dans ma tête, c'était soit je donne tout ou je donne rien. C'est ça, c'était le truc.
Est-ce que une question que j'aimerais te poser, Stéphane, moi pour l'avoir vécu justement à 20 ans, c'est la manière dont on a été intégré aussi par ce que tu appelles les anciens. En fait, moi c'était Dominici, c'était Franck Combat, c'était Diego Dominguez. Et quand tu rends compte en fait que ces mecs-là n'ont pas le melon, à 20 ans tu te dis tu peux pas te permettre de le prendre, tu vois, et pourtant de l'extérieur les gens croiraient que voilà, on a alors un aura, on a aussi peut-être du caractère aussi, mais ils confondent peut-être le caractère avec le fait d'avoir le melon, or ils se rendent pas compte justement de ce qu'on vit à l'intérieur. Et moi j'ai toujours dit, j'ai eu la chance de jouer avec une nana qui s'appelle Isabelle Adjani au théâtre et un mec comme Dominici, et que tu te dis quand ces deux personnes là peuvent pas choper le melon, qui tu es pour avoir la grosse tête? Je sais pas comment toi tu l'as vécu là-bas quand tu vis avec des mecs autour de toi, tu...
Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement pareil. C'était, pour moi, c'était Thomas Castagnède et Raphaël Ibanez à Saracens. C'était ceux qui m'ont vraiment... c'est les deux qui m'ont vraiment commencé à dire, voilà. Tu vois, c'est les gens comme ça, je les vois à la télé, je les ai vus, leur carrière et tout ça, c'est des mecs de très, très haut niveau. Mais ils sont à terre, mais ils sont trop gentils. Moi j'étais un petit dans un petit village dans le sud-ouest d'Angleterre. On était quoi, il y a 70 000 personnes, tu vois, d'arriver là-bas avec deux légendes là, c'est un truc qui m'a bien accueilli. En plus ils m'ont gardé sous leurs ailes, et c'est pour ça que je continuais et je poussais jusqu'au bout.
On va parler un peu justement de ton parcours, Stéphane, de ta trajectoire. Raph dit toujours qu'il vient de sa campagne. Toi, tu es né à Trinidad et Tobago. Tu as grandi en Angleterre, mais tu as aussi passé une partie de ta jeunesse dans le sud de la France, du côté de Nice. J'ai une question toute bête aujourd'hui, mais ça fait plus de 10 ans que tu rayonnes sur les terrains du top 14 et un peu de Pro D2. Tu te sens aujourd'hui quoi? Tu te sens trinidadien? Tu te sens anglais? Tu te sens français? Tu te sens citoyen du monde?
Ça, c'est une très bonne question. C'est ma femme qui me pose cette question presque une fois par semaine. Et à chaque fois, je me dis, voilà, c'est en fait, moi, je suis sur un bateau au milieu de l'eau. Et voilà, ça, c'est où je viens, moi. J'ai pas de maison.
Tu te sens bien partout?
Ouais, moi, je suis, je m'arrive à m'adapter dans tous les comment on dit, toutes les régions, dans tous les pays. Alors, pour moi, c'est vrai, en France, ça m'a donné. France, j'ai vécu plus. Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en France, et vraiment, pour moi, c'est la maison.
D'accord. Est-ce que par exemple, après je passerai la main à Raphaël parce que je voudrais qu'il nous donne un peu son sentiment justement sur cette espèce de melting pot que le rugby peut générer. Mais est-ce que tu te vois rester vivre en France à l'issue de ta carrière?
Ah oui, là je suis. Écoutez, là cette surtout les deux régions, surtout Toulon et la région basque. Les deux régions, c'est des régions magnifiques. Et pour nous, pour moi et ma femme, on a voilà, nous on s'est bien adapté, et tout le monde ici à Biarritz, tout ça, franchement, c'est ils t'accueillent très 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 bien. Et en plus, ma femme, elle veut rentrer dans le vin, alors il y a pas, je sais pas si je peux le dire ça, je sais pas s'il y a trop de vin en Angleterre, je sais qu'en France il y en a beaucoup, alors pour nous c'est peut-être le meilleur choix de rester en France.
Raph, quand t'entends Stéphane dire que il est sur un bateau et qu'il a l'impression d'être un peu citoyen du monde, ça te rappelle un peu ce que t'as vécu, non, aussi dans tes époques Stade Français, où il y avait des Canadiens, des Sud-Africains.
Il y avait, comme tu dis, il y a deux choses qui me marquent, c'est que moi j'ai pas eu le courage en fait de partir de Paris parce que j'avais d'autres clubs qui étaient intéressés par mon profil, mais moi je trouve ça assez courageux de prendre femme et enfant et puis de bouger. Tu sais, tu signes un contrat 2 ans, 3 ans et puis t'es à Toulon et puis le jour au lendemain tu te retrouves à Pau et puis après tu vas à Biarritz. Donc en fait, il faut aussi du courage pour remettre les enfants à l'école, les rescolariser. Mais d'un autre côté, pour les enfants, c'est aussi une forme d'ouverture aussi de bouger. Nous, on a objectif avec ma femme de partir dans le sud parce qu'il est temps, et que pour mes enfants, c'est aussi une ouverture de découvrir autre chose. Et la chance qu'on a au rugby, pour passer sur l'autre sujet, c'est que moi je dis Peter De Villiers, sud-africain, Mike James qui était canadien, Nani Corletto qui était argentin, t'avais 7 ou 8 nationalités. Puis je pense que le même discours que Bernard tenait au début de chaque année à Toulon, il le tenait à Paris avec Max, c'était on va être champion de France, on va être champion d'Europe. Si vous êtes d'accord, on reste tous dans la salle, si vous n'êtes pas d'accord, il y a une porte, personne n'est jamais sorti. Hein. Et on a eu ce palmarès-là parce qu'on a eu des gens qui étaient couillus, qui étaient précurseurs, qui avaient du caractère, parce que pour tenir les mecs qu'il y avait à Paris, et pour tenir 5-6 ans plus tard, 8 ans plus tard, après la Coupe du Monde, les deux Coupes du Monde, tenir à Toulon, les Carlemans, c'est tout ça, il faut du caractère. Et je pense que tu vas nous en parler d'ailleurs de ton rapport avec Bernard Laporte, mais gros caractère. Et en fait, ça te forme en tant qu'homme de découvrir toutes ces personnalités, tous ces gens. Tu vas chercher le positif dans chacun d'entre eux. Et je pense que Bernard, il a un peu ce côté un peu patriarcal et père spirituel qui fait du bien d'ailleurs quand on débarque à Toulon et qu'on est tout jeune au milieu de tout ça, quoi. Comment ça s'est passé d'ailleurs avec Bernard ?
Avec Bernard, moi j'avais peur de Bernard. Je pense que c'était pas le seul. Bernard, c'était un mec qui était, il était, comment dire, il était vraiment strict, mais aussi il te laissait, comment dire, il te laissait d'être toi. Il voulait pas te changer. Il veut que tu sois le meilleur de toi, mais soyez strict. Et pour moi, c'était un truc qui m'a toujours dit, écoutez, il y a deux bus. Il y a un bus qui va aller là-bas. Comme tu disais avant, il y a un bus qui va là-bas, ça c'est pour champion de France, champion d'Europe, et il y a l'autre bus. Et c'était à vous de décider dans quel bus vous voulez être. Et pour moi, dans ma tête, j'ai toujours retenu ça, parce que moi je savais à l'époque, c'était le temps où il y avait à tout moment, il pouvait faire rentrer un autre joueur à ta place. Alors, c'est ça qui mettait toujours dans la tête Bernard, pour dire, voilà, si tu n'es pas au niveau, tu ne vas pas jouer. Alors, pour moi, c'était OK. Tout le temps, tous les entraînements, j'allais à 2000. Tous les matchs, c'était 2000. C'était, et tout le monde, ce n'était pas juste moi, c'était les anciens. C'était, tu voyais Carleman, le mec, un des seuls piliers à l'époque qui pouvait faire 80 minutes. Mais lui aussi, il avait la même conversation avec Bernard Laporte en disant, voilà, écoutez, c'est... Je sais que vous avez tout ça comme palmarès et tout ça, mais moi, je suis Bernard Laporte. C'est moi le boss. Alors, c'était comme ça pour tout le monde. Ça pourrait être ton dernier match. Alors, t'étais obligé de tout donner à chaque fois.
Le côté strict, t'en parlais. Moi, j'ai une anecdote avec Bernard. On prend une branlée contre La Rochelle. Levé à 5h du matin, vidéo à 6h, à 7h sur le terrain. Et tout le monde dégueulait à 8h30. Et on n'était pas sorti la veille. Et je peux te dire que quand tu prends ça et que tu as 19 ans, là, tu sais où tu mets les pieds avec Bernard. Mais après, derrière, comme tu dis, il avait cette capacité de te mettre en confiance. Et il avait une intelligence situationnelle, c'est-à-dire qu'il cherchait à connaître aussi les gens qu'il avait face à lui. Tu vois, d'autres auraient tendance à te mettre dans une catégorie de personnes. Lui, il faisait du cas par cas et je trouvais ça intéressant. Il y avait toujours un petit mot plutôt sympa à la fin des matchs. Moi, je loupe un essai en 2001 où j'ai plus qu'à aplatir. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était le patron d'Hippopotamus qui m'a offert 2 places pour aller à la piscine pour m'apprendre à plonger parce que je n'avais pas plongé dans l'embute. Et Bernard m'a mis 2 nuquettes dans les vestiaires en disant « T'inquiète pas, ça va passer ». Bon, Max Godini m'a mis 2 fessées. Mais voilà, et ça démontre que voilà, Bernard a cette capacité de pouvoir s'adapter. Voilà.
J'aimerais, Stéphane, aussi qu'on parle d'un pan de ta carrière qui est assez peu connu, puisque tu as eu 5 sélections, tu étais très jeune avec le 15 de La Rose, et après tu as fait ce choix de venir jouer en France, qui t'a privé probablement d'un plus grand nombre de sélections. Tu as dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir de regrets, mais est-ce que finalement c'est pas des regrets, mais est-ce que tu aurais aimé avoir davantage de sélections avec le 15 de La Rose? Est-ce que tu as compris finalement le règlement qui avait été mis en place à l'époque par la fédération anglaise? Parce que jouer et porter le maillot de l'équipe nationale anglaise, j'imagine que pour toi, à l'époque, ça a dû être une fierté. Tu étais jeune en plus à l'époque.
Oui, c'était. Bien sûr, c'est un pardon à regret, mais ce n'est pas un regret. C'est juste en disant que moi, j'ai déjà eu la chance de déjà avoir 5 sélections. Il y a des millions de jeunes qui aimeraient bien avoir un. Alors, pour moi, c'était est-ce que je voulais me progresser ou pas? Je suis allé faire le tournée en Australie avec l'équipe d'Angleterre. Et Martin Johnson, qui était le coach à l'époque, il m'a dit, voilà, t'es pas encore là, mais t'es pas loin. Il faut que tu ailles ailleurs pour progresser. Et pour moi, j'étais à London Irish à l'époque. Et London Irish, j'avais déjà fait 6 ans, plus de 150 matchs. Et pour moi, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Et je n'imaginais pas d'aller à un autre club en Angleterre. Parce que pour moi, London Irish, c'était ma famille. C'est où j'ai vécu 6 ans avec mon grand frère, qu'on a passé 6 ans magnifiques, qu'on a failli. On était en finale en Premiership, on a demi-finale en Coupe d'Europe avec eux. Alors pour moi, le meilleur truc, c'était de partir à l'extérieur et tenter d'essayer de me progresser. Et pour moi, on m'a donné le challenge d'être quatrième choix 7 à Toulon. Devant moi, il y avait Giovanni Kirk, George Smith, Juan Lobé. Il y en a beaucoup.
Que des petits joueurs.
Et moi, dans ma tête, je dis, écoute, voilà, quatrième, je vais être le premier cette saison. Je vais être le premier. Alors, moi, j'ai discuté très longtemps avec ma femme à propos de ça parce que, en fait, il fallait qu'elle aussi, elle arrête son boulot, elle de prendre tout et de vraiment de partir à un endroit vraiment complètement différent pour nous deux. Et c'était le choix qu'on a pris ensemble. Je dis, moi, je veux devenir le meilleur. Ça veut dire, il faut que j'aille jouer contre les meilleurs. Et c'est pour ça que j'aurais jamais de regret de pas avoir resté en Angleterre. Parce que les choses que moi, j'ai vécues ici en France, c'est des choses que je ne peux jamais oublier. C'est des choses qui m'ont apporté absolument beaucoup. Et j'ai rencontré les meilleurs joueurs du monde.
Raphaël, toi, tu as été aux portes de l'équipe de France. C'est les blessures qui ont fait que tu n'as malheureusement pas pu porter le maillot bleu. Stéphane, il y a une légende qui dit qu'à un moment, il a été évoqué ta possible arrivée sous le maillot tricolore. Est-ce que tu veux bien nous raconter ça?
Ouais, c'est... En fait, je t'ai demandé. Mais aussi, ça a été vite calmé parce que...
Oui.
À chaque fois, tous les questions, tout le monde me pose, c'est quoi la plus grosse fierté pour moi au rugby? Et ça, c'est d'avoir porté le maillot d'équipe d'Angleterre avec mon frère à Twickenham contre l'Italie. Ouais. Alors, pour moi, de dire ça et après de mettre un autre maillot, pour moi, ça contredit, c'est ça on dit?
Oui, c'est ça. Ça aurait été compliqué.
Alors, voilà. Alors, c'est pour moi, je voulais garder ça comme... le truc qui va vraiment rester avec moi jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à la fin de ma vie.
Raph, toi, c'est un regret, le maillot de l'équipe de France? Parce que, bon, on a bien compris pour Stéphane, voilà, il a été d'une droiture vis-à-vis du maillot de l'équipe d'Angleterre, mais ne pas porter le maillot de l'équipe de France, j'imagine, alors que tout le monde parlait de toi à cette époque-là.
Non, mais après, le parallèle est flatteur sur la carrière de Stéphane et la mienne. Mais bon, j'ai dû faire peut-être 100 matchs en top 14 et en top 16 à l'époque, et top 14 des Coupes d'Europe. Il en a fait 400 entre l'Angleterre et la France. Après, moi, j'ai pas trouvé les clés de l'équipe de France parce que je chope l'appendicite en Irlande. Je suis aux portes de l'équipe de France. Et deux semaines plus tard, c'est Aurélien, d'ailleurs, qui joue contre l'Italie, je pense, Aurélien Rougerie. Donc voilà, pas de regret. Par contre, et je pense que Stéphane va me rejoindre là-dessus, quand tu as 6, 7, 8 ans, que tu commences le rugby, tu regardes avec ton père sur le canapé l'équipe de France au Parc des Princes. J'ai eu la chance de jouer au Parc des Princes avec le Stade français, mais pas avec l'équipe de France. C'est pas un regret. Mais quand je vois la carrière de tous ceux qui étaient à côté de moi dans le journal où il y avait marqué les espoirs du siècle, Raphaël Poulain, Seb Chabal, Emmanuel Arinordoki, Fred Michalak et tout ça, et que tous ces mecs-là, ils sont allés et pas moi... oui, il y a des regrets. J'en ai voulu, fut un temps, au Stade français, qui se découvrait professionnel. J'en ai voulu aussi à Fabien, sur son coaching. J'en ai voulu. Mais il y a un moment, quand tu retournes le miroir, tu te rends compte que j'avais pris 10 kilos en un an, sans me doper. C'est Bernard, d'ailleurs, qui m'avait dit, Raph, avec 10 kilos de plus, tu seras le meilleur. Putain, j'ai pris 10 kilos et j'étais à la fin de mon truc. J'ai 19 ans, je faisais 100 barres. Et après, j'ai pété comme du verre. Donc, je pense qu'il y a eu cette préparation physique qui n'était pas la même qu'aujourd'hui, qui est plus individualisée. Et après, derrière, ça s'est enchaîné, les échecs se sont enchaînés, j'ai beaucoup appris de ça, c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Mais le maillot, je comprends tout à fait Stéphane qui dit tu joues pour l'équipe d'Angleterre, quand t'es gamin et que t'es dans le sud de l'Angleterre, comme moi en Picardie, que tu regardes tes légendes à la télé et du jour au lendemain on te donne le maillot, putain ouais t'as la larme quoi, et moi j'ai pas pu l'avoir cette petite larme, donc, mais j'ai été babasse, et d'ailleurs je pense que Stéphane t'as été aussi barbarian je pense.
Oui, qu'une fois et 15 mondiales aussi.
Ouais.
C'est tous les trucs que je fais avec mon frère aussi. Ouais. Alors pour moi c'était encore plus. Tu vois, c'est des autres trucs dans sa carrière. Voilà, on va pas oublier. C'est un honneur.
Les Barbarians, c'est fort. Comme tu dis, c'est un honneur, c'est un état d'esprit. Tu dis que tu fais partie de ce côté famille que tu es obligé de former en fait pendant un an dedans pour gagner des titres. Là, tu le formes en 3 jours. Et en 3 jours, et ça peut te permettre d'éclater des montagnes et de gagner en 3 jours face à des équipes. Nous, on avait perdu contre les Fidji, à Toulon d'ailleurs, à Mayol en 2001. On avait perdu d'1 point contre les Fidji, mais 3 jours, on avait fait du karting avec Sylvain Marconnet qui avait conduit la voiture de golf, qui faisait des dérapages. On avait fait du karting, on s'est filé du pif et tout. Et là, tu arrives sur le terrain, tu manques de gagner. Donc mon petit maillot de l'équipe de France à moi, c'est les Babas. Ouais, voilà.
Ah oui, en plus, tu... En fait, là, c'est là où tu as des amis pour la vie, après aussi, pour les Barbares. Les mecs, jamais tu t'entends. Des fois, quand tu joues contre les mecs, par exemple, il y en a un mec, Daros, François Daros. Je ne supportais pas quand il joue pour Brive. Mais maintenant, quand on joue ensemble, maintenant, franchement, il est bonnard. Moi, je l'adore, le mec. Mais sur le terrain, je le détestais, moi.
Pourquoi tu le détestais sur le terrain, raconte-nous.
Parce que il est sale, hein, c'est. À l'époque quand tu pouvais mettre les, c'est pas à l'époque quand tu pouvais faire, quand il y avait plus de moins de règles.
Quand il y avait pas d'arbitrage vidéo,
c'est ça. Il était très fort, François.
un mot sur la fin de ton parcours avec Toulon, parce que j'ai lu dans la presse que tu étais parti un peu en froid avec le président du RCT, alors que vous avez tous vécu avec Mourad, avec Bernard Laporte, avec l'équipe de rêve qui était celle du RCT durant notamment ces 3 années où vous avez été champion d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé pour finalement que tu partes de Toulon un petit peu fâché?
En fait, je suis parti, je voulais que de partir amicalement.
Et, ouais, très bien.
Voilà, mais en fait, c'est parce que moi j'ai passé six ans à Toulon. Et pour moi, je pensais que c'était le moment pour moi de partir. Et c'était là au moment que moi je voulais partir. J'avais des options. Mais voilà, il me restait encore un an de contrat. Mourad, il m'avait proposé prolongation. Mais pour moi, c'était. J'ai toujours dit le moment où je m'amuse plus, où j'aime plus le rugby, il faut soit j'arrête ou soit je change quelque chose. Et pour moi, c'est arrivé à ce moment. Alors moi, je voulais partir. Lui, il voulait un peu beaucoup d'argent. C'était compliqué dans les deux sens.
Oui, c'était un problème de contrat avec les agents et tout
voilà,
ça.
Voilà. Okay.
Mais non, j'imagine que tu gardes quand même de Toulon un souvenir magnifique sur ces 6 années.
Ah oui, là c'est un truc Toulon. Il y aura toujours un côté dans le cœur, ce qui reste avec Toulon, avec toutes les choses qu'il a fait. C'est Mourad qui m'a fait venir à Toulon. Regardez, voilà. Et on a quand même fait quelque chose que je pense que personne ne le fera. Alors. Merci à Mourad. Hein.
Ouais, et puis je pense que quand tu vis des choses très très fortes, mais vraiment très très fortes, et j'insiste vraiment sur, et j'ai joué qu'une fois à Toulon en Babas, hein, mais entre le public, Mourad, la personnalité aussi de Bernard, toutes ces fortes personnalités, de gagner des titres, c'est extraordinaire, je le répète. Quand ça s'arrête, on en veut, tu vois, il y a toujours, c'est comme une histoire d'amour-passion, tu vois, il y a un moment, ouais, c'est de la faute de machin, d'un tel. Tu prends un peu de hauteur, tu prends un peu le large, et quand tu reviens, tu te dis, mais en fait, c'était tellement magnifique, et tu vas te remémorer justement tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu as fait de bien avec ce club, et puis les petites anicroches d'une fin de contrat avortée ou d'autres trucs, tu mets de côté. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce divorce qui est difficile, parce que c'était tellement fort. Ah c'était tellement fort.
C'est ça, mais.
C'est violent.
C'est, comme on dit, c'est la vie, tu vois, c'est. Je vais toujours garder les souvenirs de Toulon. Mmh. C'est le club qui m'a vraiment
révélé.
C'est de trouver, de trouver le meilleur de moi. Et on va laisser comme ça.
Eh bien, justement, la transition, elle est toute faite. On va parler un peu du Biarritz Olympique, Stéphane, Raphaël. Un BO qui a déjà impressionné hein, sur la première journée, hein, une victoire contre l'Union Bordeaux-Bègles, bon, une défaite lors de la deuxième à l'extérieur à Perpignan. Moi, avant de parler de cette saison, Stéphane, on est obligé d'en parler. Raphaël l'a évoqué au début de l'émission. Évidemment, on doit revenir sur ce fameux match de barrage qui a permis l'accession au Biarritz Olympique. Un contexte incroyable, c'était face aux voisins bayonnais. Un match qui va aux prolongations, qui se termine au tir au but, et le buteur qui donne la victoire au BO, qui permet au BO de revenir quelques années après parmi l'élite, c'est Stéphane Armitage. Qu'est-ce qui te... Voilà, raconte-nous un peu ce qui se passe dans la tête de Stéphane Armitage dans les quelques secondes qui précèdent ce coup de pied.
Parce que... Ouais, ça, c'est une très bonne question, parce que je suis sûr que... Juste avant, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Peut-être que j'avais un blackout, je ne sais pas du tout. Mais pour moi, juste avant, c'était, on s'est tous réunis. On s'est dit entre nous, c'est vraiment, il n'y a pas de... Écoute, il n'y a pas de perdant là. Là, c'est un truc qui s'est arrivé qu'une seule fois avant. C'était Leicester contre Cardiff. Et de terminer un match comme ça, pour le barrage, il y en a un pour monter, pour descendre. Écoute, il n'y a pas de perdant. Alors, il faut aller juste faire comme on fait tout le temps, juste poser le ballon et taper sans réfléchir. Mais pour moi, c'était ça le truc. J'avais un truc dans ma tête parce que moi, je suis un troisième ligne qui pense que je suis à l'ouverture en fait. Et je pense que je suis meilleur buteur de presque tous les 10. Alors,
juste derrière Johnny Wilkinson, quoi.
Non, même je crois que je suis pareil que lui, je m'en Non, parce que en fait, nous depuis que je suis à London Irish, après tous les entraînements, on fait des coups de pied, on fait des compétitions pour voir qui va payer les cafés, qui va payer les restos. Et je peux dire maintenant en 19 ans, saison, j'ai pas payé les cafés. Et ça c'est contre la plupart de tous les trois quarts de parler de mon frère, de Matt Ghetto, de Drew Mitchell, on n'a jamais joué avec Johnny, il voulait pas jouer avec nous, il voulait pas nous payer les cafés.
C'est comme Diego Dominguez à Paris. C'est ça, le mec fait des cafés. Non, non, il s'est barré d'ailleurs. Une fois, 10 cafés. On lui a dit, Diego, t'as payé les cafés. Il était en Italie, le mec. On avait joué contre Trevisano, je sais pas quoi. Il nous a dit, non, j'ai pas payé les cafés, c'est pas pour moi. Non, mais ces mecs, quand même, c'est numéro 10.
Ils ont tous peur. Alors, bon, moi, j'ai peur de rien. Alors, moi, comme je disais, j'avais un truc dans la tête. C'est Willy Duplessis dans la tête. Parce qu'à chaque fois, avant l'entraînement, après l'entraînement, on tapait. Mais on tapait de 50 mètres, on essayait de 50, 60 mètres. Et dans ma tête, il me dit, quand il y a du vent, il faut taper doucement. Alors, il y avait ça dans la tête, tout ça. Il y avait un peu de vent, je dis, OK, je vais juste continuer à répéter ça dans la tête, et je vais taper. Et au début, je n'ai même pas regardé, j'ai tapé, j'ai fermé les yeux 2 secondes, j'avais la langue qui tirait, et je me suis retourné, j'ai vu tout le monde arriver vers moi, et là, c'est encore en blackout. Je m'en rappelle plus.
Blackout, mais j'aime bien le côté black, ça fait un peu café, je vais aller loin, hein, mais Jean-Baptiste Aligier, je pense qu'il te doit des cafés à vie maintenant. Là, à Biarritz, tu ne payes plus un café dans tous les bars de Biarritz. À négocier.
Il doit aller acheter un machine à café déjà pour les joueurs déjà.
Ah, le message est passé, t'inquiète pas, il va l'entendre.
Alors justement, on va revenir maintenant sur ce début de saison, Stéphane, parce que le Biarritz Olympique a vécu quelques années difficiles en Pro D2. Qu'est-ce qui va permettre, on sait que c'est très difficile pour un club qui monte en top 14, qu'est-ce qui va permettre aujourd'hui au Biarritz Olympique de pouvoir réussir ce défi, ce pari de se maintenir parmi les meilleurs clubs de France?
Déjà, il faut continuer, il faut commencer à pousser entre nous. Ouais, parce que je pense que avec les joueurs qu'on a, c'est l'équipe, ils sont là pour être compétitifs, pour jouer contre les meilleurs. Regardez Bordeaux, on a fait notre match, on n'a rien lâché. Et c'est ça le truc, c'est d'être des chiens, de vraiment de pas se lâcher. C'est vraiment de continuer à pousser pour nous, en fait.
Raph, quand tu vois le Biarritz Olympique remonter en top 14, j'imagine que ça te rappelle des souvenirs, parce que le Biarritz Olympique, à l'époque où tu jouais, c'était un club phare. Hein. On parlait des trois clubs, le Stade Toulousain, le Stade Français, le Biarritz Olympique, qui se disputaient un peu tous les titres, hein, sur la scène nationale et même des fois au niveau européen. Une question que je vous pose à tous les deux, finalement. Biarritz, c'est un village à l'échelle de la France, à l'échelle du top 14. Aujourd'hui, c'est des mégalopoles, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est Paris. Est-ce qu'un club comme Biarritz, finalement, a sa place en top 14? C'est une question volontairement provocatrice, mais est-ce que Biarritz, économiquement, structurellement, a la capacité à s'installer durablement en top 14?
Pour moi, je trouve, moi je suis venu à Biarritz, bien sûr pour l'histoire, mais aussi c'est pour le projet. Il y avait un gros projet d'avoir nouveau son entraînement, nouveau terrain, parce que là, j'ai vu que voilà, on a le plus petit budget du top 14, mais là on est quarantaine à s'entraîner dans un petit salle de muscu. Tu vois, c'est des choses. C'est des choses. Nous on a fait qu'est-ce qu'il fallait faire, et c'était de remonter le Biarritz. Nous on a fait le boulot avec beaucoup moins d'équipement, comment dire. Alors, je pense que nous, voilà, c'est vrai, nous on mérite. On mérite beaucoup mieux, on mérite notre centre d'entraînement, notre terrain. Alors, avec ça, écoutez, avec ça, on ne sait pas où on peut aller, on peut aller beaucoup plus haut, mais déjà, il faut qu'on a ça déjà.
Justement, on sait qu'il y a eu quelques petites tensions justement entre la direction du club et la mairie. Et après la montée en top 14 du club, je reprends une déclaration. Maïder Arostegui avait donné une interview à Ruud Birama où elle disait la remontée en top 14 peut être une perspective de rééquilibrage dans le projet. On pourra peut-être trouver plus facilement un terrain d'entente. En tout cas, ma porte est ouverte. Et on a le sentiment aujourd'hui que finalement le projet est en stand-by. Est-ce que tu as le sentiment que les joueurs, le groupe, en souffrent justement par rapport au fait, tu parlais, voilà, la salle de muscu qui est trop petite, le terrain qui est peut-être trop étroit. Jean-Baptiste Aligier, le président, disait qu'il n'avait pas de possibilité de faire d'hospitalité et d'accroître son budget. C'est quelque chose dont vous souffrez au sein de l'équipe?
Ah oui, tellement. Regardez, en ce moment, ces dernières semaines, on a les toits qui coulent. C'est pas normal pour un, c'est pas normal pour une équipe en top 14. Nous, voilà, ce truc, je peux dire, comme je l'ai dit avant, c'était, voilà, nous, on a fait, on nous a demandé de faire quelque chose, et c'était de faire remonter Biarritz en top 14. Et nous, on a tout fait, on a laissé tout, sur le terrain. Et maintenant, c'est à eux de faire le nécessaire maintenant, parce que je crois, nous, on le mérite.
Je trouve ça très courageux justement de ta part, parce que c'est pas évident quand même comme sujet, parce que là on parle d'économie, on parle de la mairie, on parle de Jean-Baptiste Agier qui est très bon aussi communicant et qui doit être très bon président aussi. Force est de constater que son projet, il est venu nous en parler l'année dernière, ça a fonctionné. C'est vrai que c'est un terrain d'entente. C'est courageux de ta part justement de dire que d'un côté, nous les gars, on nous a demandé de faire le taf. Vous êtes le dernier budget, donc les salaires doivent pas être mirobolants par rapport à ce qui se fait dans les grosses écuries. Rappelons quand même le Stade français aujourd'hui qui est quand même à deux défaites et le plus gros budget. Non, mais c'est vrai, force est de constater que même avec des grosses infrastructures et voire les meilleures, on n'a peut-être pas les résultats. Donc il y a aussi cet esprit d'équipe aussi qui est fort aussi dans le rugby et de montrer que d'un côté c'est fait, de l'autre, à vous de jouer. Nous, alors pour prendre l'exemple du Stade français à Paris, nous on s'entraînait dans une salle de muscu qui était à Géo-André à côté de Jean Moin. On faisait la vitesse à perpète, on allait s'entraîner à Meudon. Et après. Ben voilà, il y a eu les titres qui sont arrivés. Donc tu légitimes quand même quelque chose de ton côté niveau sportif et qui derrière ouvre la porte à Max qui négocie aussi avec la mairie pour pouvoir avoir son stade. Et Max a eu son stade. Malheureusement, après avoir perdu la présidence, c'est un des grands malheurs de Max d'ailleurs. Mais ça part du terrain. Le terrain, le boulot est fait. La montée est en top 14. Maintenant, alors oui, la question que tu poses, Arnaud, elle est légitime. Est-ce que le Biarritz Olympique, économiquement, je parle, hein, pas sportivement, parce qu'elle l'a prouvé, mais économiquement, est-ce qu'elle peut tenir sur la durée en top 14 avec les grands pontes autour? Il faut trouver des solutions. Et là, on ne parle pas du tout de fusion. Ça doit être à la mairie aussi de mettre un peu d'eau dans son vin, aussi à l'IG d'en mettre un peu. Voilà, et les gros sponsors aussi autour. Mais il y a cet esprit famille autour de Biarritz. Bordel, il y a un passé derrière. Vous avez un public qui est monstrueux. Vous avez les Imanol, vous avez les IH, vous avez toute cette histoire derrière. Vous avez créé l'histoire. Comme les Jules Puisson et autres ont clairé l'histoire au Stade français en 2015. On attendait justement ce renouveau au Stade français. Il est arrivé en 2015. Bon, il y a eu des quelques galères derrière. Vous recréez justement, voilà, on n'est plus dans la nostalgie du passé des Imanol et tout ça. Vous créez votre histoire. Maintenant, c'est au club de jouer, quoi. C'est au club de jouer, de se structurer. Et c'est à eux de pouvoir vous apporter les moyens pour que Biarritz ne fasse pas le yo-yo comme beaucoup d'équipes qui avaient plus de moyens, on va rappeler le Loup, qui avait beaucoup plus de moyens et qui a fait 3-4 fois le yo-yo avant de pouvoir s'installer. Que Biarritz ne vive pas ces années-là, parce que ce serait hyper frustrant et pas sûr qu'ils reviennent encore une fois, parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait, mais pas sûr qu'ils reviennent encore une fois en top 14 s'ils étaient amenés à descendre. Donc il faut structurer. Et maintenant que c'est structuré sur le terrain, structurer aussi à côté, je pense. Voilà.
Stéphane, on a parlé du Biarritz Olympique, on a rappelé ton âge aussi, 36 ans. Moi, j'aimerais qu'on évoque
35,
un dernier...
35.
Ah, pardon.
36 le 20.
36, oui, 36 le 20 septembre, c'est ça?
On a dit qu'on n'allait pas dire les âges.
tu veux pas payer les cafés, c'est ça le 20
voilà,
septembre?
Voilà, c'est ça.
non, mais voilà, tu sais très bien que malheureusement pour toi, il y a plus d'années de rugby derrière que devant. Est-ce que... l'après-rugby, tu le prépares, tu l'anticipes. J'ai lu dans une interview il y a 2-3 ans où tu disais que c'est quelque chose qui te faisait un peu peur, l'après-rugby.
Oui, au début, mais après, d'avoir une femme qui est toujours derrière toi, en train de te pousser, tout ça, ouais, je sais que ça commence à être à peu près de la fin. Mais au début, je disais peut-être que je vais complètement m'éloigner de rugby, mais je ne peux pas. Je crois que le rugby, c'est dans mon sang. Je vais continuer à faire. J'aimerais bien continuer, si c'est faisable, d'intégrer le coaching, d'être spécialiste dans les rocks ou.
Tu t'y connais un peu.
Défense. Juste un peu. Maintenant, avec les nouvelles règles, il faut que j'apprenne les jeunes. Il faut que les jeunes, Mathieu Réguen, Galagonia et tout ça, m'apprennent à refaire, à reprendre notre façon de le faire. Alors, pour moi, j'aimerais bien intégrer là-dedans. Et aussi, il y a le côté pour ma femme qui aimerait bien rentrer dans le secteur du vin. Alors, de mettre le rugby et le vin ensemble, c'est parfait.
Raph, toi, c'est un sujet qui te passionne aussi, la reconversion, parce que tu as souffert à la fin de ta carrière, justement, de ne pas avoir peut-être anticipé, de ne pas avoir été accompagné. Si tu avais un conseil à donner à Stéphane, justement, dans cette perspective.
Il n'y a pas de, de conseils à donner, déjà d'être structuré, d'avoir une femme aussi autour de soi. Moi, j'étais seul, j'ai arrêté à 25 ans. Après, j'ai fait quand même pas mal de trucs. J'ai eu le théâtre, j'ai fait une grosse introspection, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait des conférences. Donc, tout ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Donc, oui, c'était dur, mais il n'y a pas de conseils à donner. Maintenant, c'est de... Je pense que de tout rugbyman qui arrête sa carrière à un moment donné se pose cette question-là de quelles sont mes compétences, quelles sont les compétences que j'avais sur le terrain que je peux transmettre ou en tout cas que je peux avoir dans le monde de l'entreprise. Pour ça, il y a des bilans de compétences, il y a des bilans psychologiques, il y a cet accompagnement nécessaire et vital dans tous les clubs de sport, mais de rugby et d'ailleurs qui se considèrent comme professionnels, d'avoir un accompagnement psychologique, un accompagnement professionnel, d'être mis en contact aussi avec les différents sponsors des clubs. Donc, si j'ai un contexte, Steven, un conseil à te donner, fais comme Jérôme Fiol. Va chercher des cartes de visite. Jérôme Fiol, il est sorti avec un classeur de cartes de visite, il en a à peu près 1000, mais force est de constater que derrière, il a réussi aussi sa reconversion. Je ne dis pas que c'est grâce aux cartes de visite, mais on a la chance d'avoir un réseau, on ne s'en rend pas compte, on est constamment à 100% sur le rugby. On a la chance d'avoir un réseau en fait, tout autour de nous, de gens qui ont des compétences, de gens qui ont des usines, de gens qui ont des boulots, des métiers, qui peuvent nous aider. Et je trouve qu'en plus, l'histoire, elle est belle, c'est quand tu termines dans un club, que le club s'occupe de toi après, derrière. Et puis, avec un sponsor, de dire, vous n'êtes pas là que pour venir serrer des paluches aux joueurs et de faire des selfies ou de prendre des autographes. Vous pouvez en plus les accompagner sur le... Donc, je ne suis pas inquiet pour Stéphane. Maintenant, au niveau du pinard, juste pour ta femme, pas certain qu'à Biarritz, si elle trouve vraiment son bonheur. Je ne suis pas sûr. Mais tu as Bordeaux juste au-dessus. Et entre Toulon et Biarritz, tu as Béziers, tu as Narbonne, tu as les équipes de rugby qui cartonnent pas mal. Tu as Montpellier aussi. Donc, tu peux, je pense qu'elle peut trouver sa place dans des vignobles là-bas. Et puis, toi, de t'épanouir dans ton nouveau métier de coach et à... Je pense que tu seras bon. Et moi, j'ai une question quand même. Qui est le meilleur dans les rocks entre Bastaro et toi? Ben, c'est toi, non?
Ah, bien sûr. Même Basta, il le dira, c'est moi. Il a intérêt, en fait. Il a intérêt. Il a pris tout sur moi, c'est sûr. C'est pour mais ça, c'était... maintenant, il joue du moins 8, parce qu'il voulait me copier. C'est comme mon petit frère, il voulait toujours me copier, Basta.
Juste pour conclure, Stéphane, il y a quelque chose qui me marque durant cette émission, et tu en parles très souvent, c'est ton frère, Dylan. On a un peu perdu sa trace en France. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles? Est-ce qu'il vit en France? Est-ce qu'il est reparti vivre à Londres? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
Là, Dylan, en ce moment, là, il est reparti en Angleterre pour suivre le chemin de son petit-fils qui a 13 ans. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une académie de rugby, Dylan Armitage Academy, en Angleterre, à côté de Twickenham. Et c'est vraiment, c'est pour donner les leçons à tous les enfants qui sont de toute région, de n'importe la taille, le poids, c'est l'âge. C'est vraiment de spécialiser des entraînements pour chacun des enfants, pour qu'ils réussissent le meilleur plus tard.
Donc on imagine qu'ils vont faire venir un spécialiste des rucks. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu feras payer ton frangin ou pas pour intervenir? Bien sûr. Oui. Ah, bien sûr.
Non, mais ça va être pour les cafés, parce qu'on va faire les tirs au poteau aussi. Non, pour les enfants, je ferai avec plaisir pour les enfants, mais pour mon frère, par contre, je lui fais payer, lui.
Ouais, c'est top. Et il y a aussi ton petit frère, Guy, et j'ai souvenir que vous avez joué quelques matchs quand même ensemble à Toulon, tous les trois.
Oui.
J'imagine que vivre un match au plus haut niveau comme ça avec ses deux frères, ça va être quelque chose de très particulier, non?
Ah oui, c'est un truc énorme, pas seulement pour moi, c'est pour ma mère, surtout ma mère. C'est rare. Et c'est pour ça, nous, on est trop compétitifs, en fait. Parce que moi, je voulais toujours être meilleur que Guy, toujours être meilleur que Dylan. Et c'était pareil. C'est pour ça qu'on se poussait entre nous. C'est pour ça, surtout avec Dylan, je suis resté 13 ans de ma carrière avec Dylan. Parce que lui, c'est lui qui m'a poussé jusqu'au bout à chaque fois. Quand je n'étais pas tout à fait droit, c'est lui qui me remettait droit. Même si lui était un peu fou dans sa tête sur le terrain, la plupart du temps, lui me remettait droit.
Dans le droit chemin,
ouais. Ouais, mais c'est un truc impressionnant de jouer avec mon petit frère et mon grand frère. En plus de gagner, on a gagné le tournoi à 7 en Angleterre, à Premiership 7-7 avec mes trois frères. Et ça, c'est un truc qu'on ne va jamais oublier.
Par contre, dis-moi si je me trompe, Si vous avez tous l'esprit de compétition dans la famille, comme toi tu l'avais, ça devait être fatigant pour ta maman, non?
Ah oui. Elle pouvait plus supporter, parce que en plus j'ai un plus grand frère, Beven. Lui, à l'époque, lui était à Narbonne, Toulon et Nice. Et j'ai un plus petit frère qui était un pilier, qui était à Mont-de-Marsan. Maintenant, il est en Angleterre. Alors, on était cinq quand même. Et là, c'était la guerre à la maison. C'était et il n'y avait qu'un seul gagnant et c'était moi. Voilà.
Oh, finesse, moi je...
Ne dis pas ça à Dylan.
Ah ben, t'inquiète pas qu'il ne l'entendra pas. Puis si j'arrive à trouver son mail, je lui envoie tout de suite. Demain, je lui envoie le lien du lien. Écoute juste les cinq dernières minutes. Juste ça.
Stéphane, un grand merci pour ta participation. Raph, je te laisse le mot de la fin. C'est toujours toi qui conclut. Ton sentiment sur cet échange que tu viens de vivre avec Stéphane Armitage, dont je rappelle, trois titres de champion d'Europe, un bouclier de Brennus, deux fois élu meilleur joueur européen, 5 sélections avec l'équipe d'Angleterre et aujourd'hui capitaine du Biarritz Olympique, auteur, et l'histoire retiendra, auteur du coup de pied vainqueur face à l'Aviron Bayonnais.
Non, moi, ce que je retiendrai, mais en deux secondes, hein, j'ai deux fils, un de 5 ans, un de 2 ans. Quand je vois le bordel que c'est, alors moi je suis là et ma femme est là, hein, mais j'imagine pas une femme comme ta maman, Stéphane, qui s'est appelée 5 gamins. Ça doit être terrible. Et je pense que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc avant de penser à ta femme qui doit avoir beaucoup de courage pour te supporter comme la mienne, t'inquiète pas, je pense que derrière ça, on a quand même nos mères, justement, qui ont réussi à nous supporter. Moi, j'avais deux grandes sœurs. Donc voilà. Non, ce qui me marque chez Stéphane, et je suis ravi de t'avoir eu, c'est que on a galéré à t'avoir, non pas parce que tu rechignais ou quoi, mais qu'il y a eu ce titre et qu'après, derrière, voilà, on impose aussi parfois d'aller voir les médias. Mais là où je suis content, c'est qu'en fait, tu t'es déridé tout au fur et à mesure de l'interview et que tu as eu la banane tout le long. Et je suis content d'avoir partagé ce moment avec toi parce que de l'extérieur, on voit le mec qui gratte, on voit le mec maintenant qui bute, tu vois, on voit le joueur très professionnel. Mais tu as quand même, ce que j'aime bien, c'est cette petite connerie dans le fond de l'œil, tu vois. Et celle-là, elle est très, très bonne. Donc, je pense que si on avait eu l'occasion de jouer ensemble sous Bernard, sous Boudjelal, on se serait pas mal entendu. En tout cas, moi, je te promets, par respect pour toi, de venir taper un coup de pied des 22 et de te faire payer enfin un café au nom de tous ceux que tu as dû faire chier pendant des années. Voilà.
Avec plaisir.
Je viendrai à Biarritz. Ce jeune filleul habite à Biarritz maintenant, comme c'est mon meilleur pote. Je vais y venir de temps en temps et je te promets, j'ai ton numéro, un petit texto. On fera une petite vidéo, un café et terminé. On fera connaissance comme ça. C'est cool.
Avec plaisir.
Bon, messieurs, un grand merci. Stéphane, bon match pour ce week-end avec le Biarritz Olympique. On se retrouve, messieurs, pour Poulain Rafut la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous.
Salut.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.